C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Hey, mercredi soir, c'est la Poche Bleue Radio avec Guillaume et Maxime. Salut les boys, comment ça va?
Salut Mario!
L'été?
Salut Mario!
Les gars, l'été est fini. Avez-vous un petit peu de peine aujourd'hui? Moses, que ça passe vite! 21 septembre, déjà. En même temps, on est à la porte de la nouvelle saison de hockey. Alors, où se situe le bonheur?
Ben moi, je suis heureux, j'adore ça, Mario. Quand il fait un peu plus frais, le hockey recommence, des petits feux à l'extérieur avec un bon verre de vin. Ça, c'est notre style, là, Guillaume.
Ah,
surtout que je passe pas la journée en sueur avec le dos tout mouillé, je vais être bien content.
mais c'est drôle de vous entendre dire ça, parce que je connais un paquet de monde qui pense exactement comme vous. Et c'est pour ça que, dans le fond, on est super de bonne humeur. L'automne commence, quelle magnifique saison. Tout est dans l'œil de celui qui regarde. Parlant de regarder, les gars, parce que Max était avec nous autres hier, Guillaume, on n'a pas eu l'occasion de discuter entre autres de la retraite de Chara et Subban, mais je regardais une vidéo puis je savais pas que tu avais été victime d'une agression de la part du grand Chara. Et honnêtement, c'était plutôt sauvage. Écoute, t'avais pas 20 ans. Les recrues sont-ils victimes souvent d'abus de vétérans dans la Ligue nationale?
Non, je pense pas. Ce match-là, je sais pas si tu te souviens, là, tu le vois sa séquence, il essaie d'arracher la tête à Alex Kovalev. Mais c'est Steve Bégin le vrai coupable dans toute cette histoire. Moi, j'ai payé pour Steve Bégin, dans le fond. Steve, il l'a pas lâché, ce match-là. C'était même pas drôle à quel point il a réussi à sortir Chara de son match. Il était plus capable. Puis on est arrivé à la fin, puis justement, Steve Bégin, il a fâché le gros Chara. Puis comme je me plais à dire, Chara s'est battu avec moi, mais moi, je me suis jamais battu avec.
Mais pour vrai, là, c'est vraiment... Parce que, Maxime, tu nous disais hier que c'est le gars le plus intimidant contre qui t'as joué. Fait que, Guillaume, j'ai envie de penser... Tu sais que tu penses pas mal la même affaire ou?
Chara Mazan, là. Oui. Puis moi, j'étais à gauche, puis il était souvent, surtout en début de carrière, là, les années qu'on était avec le Canadien, on se souvient. Chara, je trouve que avec les années, sa force a été de s'adapter, ajuster sa game. On se souvient à quel point au début, là, t'avais la rondelle sur la bande, si tu faisais un bon jeu, t'étais capable de la mettre, puis d'avoir un 2 contre 1. Mais Chara, au début, c'était ça. Il voulait faire mal, il voulait frapper, puis il s'est adapté à la fin, puis je pense que c'est pour ça qu'il était capable de jouer longtemps de même. Mais côté intimidation, côté peur, oui, il faisait extrêmement peur parce qu'au-delà de sa force physique, c'est un gars qui était capable aussi que les fils se touchent certaines fois puis qu'il devienne dangereux.
Ça ramène à autre chose, les gars. Maxime, t'as déjà allumé quelques feux. T'en as peut-être éteint quelques-uns également. Mais quand il y a un allumeur, je dis pas que Steve est un agitateur, mais c'est un gars qui il pouvait soulever l'ire d'un adversaire, comme tu viens de nous l'expliquer, Guillaume. Comme un Romanov qui sortait une grosse mise en échec. Comment on vit avec ceux, justement, qui réveillent l'adversaire, en quelque sorte, les gars? Parce que des fois, c'est un autre qui paye le prix, comme Guillaume, cette fois-là. C'est drôle.
C'est difficile de répondre pour moi parce que j'allumais les feux, mais souvent, Mario, les gars apprécient grandement ce rôle-là parce que c'est toi qui, dans un match où il se passe rien, qui reçoit la petite tape sur l'épaule de l'entraîneur ou du capitaine ou de tes coéquipiers, pis là, va partir de quoi, là, parce que les gars dorment pas à peu près à soir, puis faut se remettre dans le match, va, allume la foule, fait quelque chose, puis les gars aiment ça, puis tu sais, des fois, c'est sûr que ça amène des combats, mais dans ce temps-là, je jouais sur le quatrième trio, moi, par exemple, puis les gars, c'était Georges Larac, c'était Steve Bégin, il se lichait les lèvres, il avait hâte que je parte un feu, justement, pour l'éteindre, il appréciait ça, ce moment-là. Alors, c'est sûr que moi, de l'autre côté, ça me donnait du gaz encore plus.
Hey, je comprends donc, c'est tellement bon.
J'avoue que dans le rôle d'agitateur, quand t'as des gars comme Georges Larac, que tu sais que tout le monde a peur de lui, ça change la game. Je me souviens, mon premier match avec le Wild, je m'en vais frapper un gars, puis c'est Chris Stewart, le gars de l'Avalanche Colorado, qui était un marqueur de but, mais était quand même extrêmement tough. Puis il vient me voir, puis il dit « Let's go ». Là, je fais juste dire « Passe sur Derek Bogart puis John Scott avant, puis après ça, tu viendras me revoir. » Puis il est pas venu.
Ben, alors, tu viendras pas me dire que les joueurs aiment pas ça de n'avoir un dur à cuire dans leur équipe. Là. Puis envoyez-vous à l'horizon chez le Canadien à quelques semaines d'un début de nouvelle saison avec beaucoup de jeunes que je dirais que ce serait peut-être une bonne idée de protéger.
Ben moi j'aurais aimé ça qu'on signe des lauriers. Ouais. C'est sûr et certain, je pense que ça aurait été parfait. On veut pas de violence, on veut pas plus de combats. C'est juste que c'est le grand frère dans le vestiaire, puis les jeunes. Tu sais, je veux pas voir par exemple dans un match cette année un Caulfield puis un Suzuki là se faire virer de tout bord de tout côté tout au long de la saison parce que les gars le message se passe quand même dans la Ligue nationale de hockey, ils vont se dire c'est les gars de premier trio ont du talent, mais faut s'entendre, c'est des joueurs à petite stature. Est-ce qu'on va commencer à les brasser? Ça va arriver un jour là, ça c'est sûr et certain. Puis ça prend quelqu'un en arrière qui est capable de répondre aussi.
Ben je pense que l'exemple parfait c'est du côté de Wilson sur Panarin il y a un an ou deux, puis on a eu Ryan Reeves qui était dans l'équipe. Tu sais, ça change la dynamique pareil quand tu sais que Ryan Reeves il est là en arrière, puis on a réglé des choses, on a réglé des comptes, mais ça fait en sorte que justement des Panarin, ben même si t'es Wilson puis t'es tough, tu y penses quand même le prochain coup que ça arrive là. Tu sais, des fois dans le feu de l'action, des situations qui arrivent, puis oui, ça arrive, mais je veux dire, lorsque c'est pensé puis le prochain coup, mais ben, peut-être que tu y penses deux fois.
Je pense qu'on en a un en développement, le Harbour Jacky là, mais il est pas prêt à jouer au niveau de la Ligue nationale. En tout cas, en termes de hockey, en termes du reste, il a l'air d'être pas mal proche de la Ligue nationale, à moins qu'on le convertisse en ailier de quatrième trio en attendant qu'il puisse s'occuper un poste à la ligne bleue sur une base régulière là.
Ouais, puis il y a eu un bon combat là, on s'entend contre les Sénateurs, ça a été un super combat pour lui, mais là après ça d'affronter des gars que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue, puis des vrais de vrais là, tu sais, sans rien enlever aux joueurs des Sénateurs là, je me rappelle pas son nom, mais sans rien lui enlever, tu sais, on s'entend que quand il va affronter un tough que tu sais des lauriers, puis c'était qui l'année passée, McDermott qui s'affrontait tout le temps, McDermott.
Oui.
C'est deux durs à cuire. Là. Quand il va affronter ce gars-là, on va peut-être avoir une autre façon de penser. Mais oui, c'est un gros bonhomme fort qui peut amener quelque chose aux Canadiens dans les années futures.
Avez-vous vu le nouveau look de Romanov avec les Islanders de New York? L'effet Lou Lamoriello, ça fait des miracles, ça, sur une tête ou une barbe, hein, les gars?
Il s'est coupé les cheveux, c'est ça?
Ben
pas vu.
Ben oui,
cheveux,
oui.
Barbe. Ah, je trouve tellement. Ça mérite un peu, ça.
Ah, moi aussi.
Ça, c'est incroyable.
Je le savais que ça vous ferait réagir. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de règlement d'équipe, les gars?
Penses-tu qu'il m'aurait dit de me couper les cheveux?
Ben, je pense que. Oui.
Il me reste trois poils
dans la caboche. Je pense qu'il t'aurait dit, tout est correct, tes cheveux, ils se coupent tout seul.
Mais vous aimez pas ça, les règlements
de
tout court?
Ça me dérange. Non, mais je trouve surtout en 2022, est-ce qu'on parle de laisser les gars prendre leur place, est-ce qu'on parle de laisser justement liberté d'expression, puis être ta personnalité, puis être ta propre personne dans une équipe, de rendre un règlement comme ça, moi je trouve ça inacceptable que la Ligue nationale laisse ça arriver. Chaque gars a le droit à son identité, chaque gars a le droit de se sentir. Comme moi, là, j'ai toujours porté une barbe parce que je me sens bien qu'une barbe. Tu l'enlèves, puis ça peut paraître vraiment stupide, mais je me sens mieux comme ça. Mais un joueur, c'est la même chose, puis je trouve que de faire ça, moi, je trouve pas ça correct qu'on accepte ça comme organisation. Puis je m'étais déjà dit, je veux pas signer pour Lou Lamoriello un jour. Ça me tentait pas d'avoir à vivre ça parce que honnêtement ça me dérangeait pour vrai.
Ben moi ça m'est arrivé, Mario, j'étais en discussion avancée avec les Devils lorsque j'étais agent libre, puis je m'en allais là dans théoriquement, puis j'ai eu un appel de dernière minute des Blues de Saint-Louis, puis j'ai changé d'idée, mais ça me trottait dans la tête tout ça que t'as pas le droit de choisir ton numéro, t'as pas le droit de t'habiller de la façon que tu veux, faut que t'aies les cheveux coupés parfaitement à tous les jours, la barbe rasée, tu sais. Je dois t'avouer que ça commençait à me fatiguer, mais que tu sais, quand t'es un gars de quatrième trio, puis c'est ton offre quand t'as sa table.
Quand tu dis
tu coupes les cheveux puis tu fermes ta boîte.
Hein? Quand on dit Mario, quand on dit proche de signer avec les Devils, c'est proche, là.
Quand je te dis proche, là, j'étais dehors avec ma famille parce qu'on voulait vivre ce moment-là, la journée, là, je pense que c'était le 1er juillet à l'époque. Toute la famille ensemble, ma femme puis tout. Puis je monte les escaliers pour m'en aller dans la maison, puis je leur dis bon, mais c'est fait, je m'en vais au New Jersey. Puis je suis allé signer papier, puis je suis redescendu, tout le monde crie yeah, c'est fait, parfait. Ouais, mais on s'en va à Saint-Louis.
Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux?
J'ai eu un appel. Dans le fond, je pense que les Blues essayaient de signer Valtteri Filppula. Mm-hmm. Puis il y avait besoin d'un centre finalement. Puis on dit, il m'avait dit en matinée que si jamais ça fonctionnait pas avec lui, qu'il allait venir me chercher. Puis comme de fait, j'ai eu l'appel en montant les escaliers pour aller chercher mes informations, mon laptop, pis tout. Puis j'ai cancellé.
Puis t'es-tu déjà demandé si t'aurais été mieux avec les Devils après coup ou t'as été vraiment heureux avec les Blues juste pour le fun, au-delà du règlement d'équipe, ce qui t'a finalement enlevé l'enthousiasme de signer avec les Devils?
Non, j'ai été heureux parce que les Devils, ce qui était dur aussi, c'est que je sais pas si tu te rappelles le bon quatrième trio qu'il y avait avec le frère Adjunta, Steve Bernier.
Oui.
Il y avait un autre joueur de centre qui était très très bon. Le nom m'échappe, là, mais je savais que fallait que j'aille déplacer quelqu'un avec un trio qui fonctionne beaucoup. Tu sais, je me voyais plus comme réserviste dans cette équipe-là.
Ah, ben ça c'est un excellent incitatif. D'ailleurs, tous les gars qui actuellement décident de se soumettre à ce qu'on appelle un PTO, là, un essai professionnel. Ouais. J'en discutais en dehors des zones avec un gars comme Antoine Roussel, c'est que t'es toujours prêt, c'est pas ton choix premier, là, c'est pas ta préférence, évidemment, tu veux y aller avec un contrat, mais si jamais t'acceptes un essai professionnel, tu regardes l'alignement, puis tu regardes si t'as une chance réaliste de rester là.
On l'a vécu. T'sais, on l'a vécu, Mario. Max, il y a eu un PTO avec les Rangers, moi j'en ai eu un avec l'Arizona. Mon dernier camp d'entraînement, c'était avec les Coyotes. J'avais eu 2-3 équipes qui m'offraient un essai professionnel. On se souvient que tous les déboires de mes commotions puis tout, puis j'avais plus d'opportunité, puis j'avais eu 2-3 équipes qui avaient appelé, j'avais regardé l'alignement de l'Arizona, puis je voyais que j'avais une place dans cette équipe-là. J'ai connu mon meilleur camp en carrière là-bas. Je me suis blessé au dos. Je pense qu'ils ont eu peur avec tous mes antécédents. Mais oui, je me suis retrouvé que j'ai rencontré, c'était Mulroney. Non, c'était pas... c'était qui le grand? En tout cas, c'est pas grave. C'était le DG. Il m'avait dit, va juste passer un mois dans la Ligue américaine, puis tu vas remonter. Mais j'avais tellement de problèmes de tête que je pouvais pas même pas le dire à mon agent que je pouvais pas aller dans la Ligue américaine parce que c'était trop tough pour moi. Fait que j'avais camouflé à mon agent, j'avais dit non, je suis un gars de Ligue nationale, je vais pas jouer dans la Ligue américaine, signe-moi en Europe, mais c'était parce que j'étais pas capable physiquement de le faire. Fait que ça a été ça mon dernier try-out, ça a été en Arizona.
C'est bien pour dire, hein? Et Maxime, t'as d'autres souvenirs de ça, de cette période-là, Saint-Louis? Mais c'est une maudite bonne histoire que tu nous as racontée, là. Fait que t'as pas question, tu te coupes. T'avais-tu une belle petite barbe puis des cheveux longs à ce temps-là? Ou?
Non, ben j'étais un gars. Tu sais, j'étais un gars qui se rase quand même régulièrement, ouais. Mais j'aimais. Non, mais j'aimais pas ça me faire dire qu'une semaine que ça te tente pas, que tu sais. Ouais. Faut-tu vraiment que tu te prennes un rendez-vous chez le coiffeur aux 2 semaines, là, à un moment donné? Ouais. C'est comme un peu ridicule, là. Tu peux pas rien faire. Puis juste le fait, par exemple, t'as des vétérans qui ont joué toute leur carrière avec un numéro, puis là t'arrives là, puis t'as pas le droit à un numéro en haut de tel, tu sais, ça fait pas de sens. On n'est pas des enfants à garderie quand même.
J'avais eu ça avec le Wild, moi, ça, le numéro. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. Je pars de Montréal avec le 84. On m'appelle, Chuck Fletcher m'appelle, il dit, ouais, Guillaume, tu veux quel numéro? Je dis, ben, je vais prendre le 84. Il dit, je veux pas de gars en haut de 50. Fait que là, j'ai mis Pierre-Marc Bouchard, le 96. Il dit, ouais, mais c'était avant moi. Il dit, à cette heure, plus de gars en haut de 50. Fait que là, je le rappelle. Je dis, je vais prendre le numéro 4. Fait que là, lui, c'est un gars, il est natif de Montréal. Il me dit, coudonc, tu te prends-tu pour Jean Béliveau?
Ben, voyons.
Fait que là, il est comme, oh, il est
maître. Bienvenue au Minnesota.
C'est ça. Il m'a dit, t'as le 28 ou le 48, c'est toi qui choisis, je te laisse 2 choix. J'ai fait, oh, OK. Je pense que quelqu'un, il avait dit, j'étais un petit mangeur de marde, je sais pas. Il m'a dit, faut le casser, le gros, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il avait réussi à me shaker.
Mais c'est drôle, parce qu'on a discuté de ça. Je faisais référence justement à Guillaume l'avant-veille. Tu disais que, tu sais, t'as senti qu'il y a des entraîneurs qui voulaient te changer, puis toi, tu voulais continuer avec la façon de jouer qui t'avait amené là. Puis je demandais à Max, penses-tu que, dans le fond, tu sais, Piqué, ses plus beaux moments, c'est quand il était le plus peu. C'était peut-être pas un gars de système, il y en a eu des beaux moments, ouais. Là. Et penses-tu qu'on a essayé de le casser, lui, tout, tu sais, pour qu'il rentre dans le moule, puis...
100%, ça arrive souvent. Ça arrive souvent avec des jeunes, Mario. Puis moi puis Guillaume, on a eu une longue discussion dans la voiture hier. On parlait de Guy Carbonneau. On se disait, si Guy Carbonneau était resté à Montréal, nos deux carrières seraient pas à la même place en ce moment. On a eu des entraîneurs après ça qui ont essayé de nous changer. Guy Carbonneau, il voyait exactement en nous ce que nous, on voyait. T'sais, puis c'est pour ça qu'on a eu des bonnes saisons. Moi, j'ai compté 15 buts sous ses ordres. Guillaume, c'est un joueur de premier, deuxième trio. On s'est débarrassé de lui rapidement. Je trouve comme entraîneur, c'est un gars qui avait d'expérience, qui connaissait le marché de Montréal. On avait eu des bonnes saisons, puis il était en train de faire un beau travail avec les jeunes.
Il savait respecter la nature des individus.
Exactement.
Ouais, c'est une de ses forces. Tu sais, on a entendu plusieurs places que Guy Carbonneau, le manque de on n'a jamais vécu ça, moi puis Max avec lui. Tu sais, puis j'en parlais l'autre jour. Tu sais, Carbo, il était avoir resté là à Montréal. Je suis certain qu'on aurait, probablement pas été échangés les deux là, Max et moi. Là.
Les gars, les règlements d'équipe. Là, on parlait de Lou Lamoriello, mais il y en a d'autres équipes. Il y a d'autres règlements. On va aller à la pause juste pour le fun. Pensez-y pendant cette pause-là. Si vous avez vécu avec d'autres règlements ou est-ce qu'il y a un règlement vous que vous auriez envie d'instaurer. Si vous étiez le boss d'une équipe de hockey. On est de retour avec Maxime et Guillaume. C'est La Poche Bleue Radio aux amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. La Poche.
On est de retour avec Maxime et Guillaume à Poche Bleue Radio, aux amateurs de sport. Les gars, avez-vous vécu avec d'autres règlements d'équipe là en dehors de... C'est toujours Lou Lamoriello qui fait parler de lui avec ses règlements, mais j'ose croire que les autres clubs en ont des règlements.
Ben, à Vancouver, je peux pas vraiment dire que c'est un règlement qui dérangeait, mais on a eu la séquence où il y avait le docteur du sommeil, là, puis il fallait porter un bracelet puis une montre 24 heures sur 24 pour savoir notre style de vie puis qu'est-ce qu'on faisait, le nombre d'heures qu'on dormait. Je trouvais que c'était un peu
intrusif
quand même, là. Ben oui, puis je comprenais aussi que pour jouer pour les Canucks de Vancouver, tu voyages beaucoup, le décalage horaire et tout ça. Ils voulaient savoir c'était quoi la meilleure façon de se reposer. C'était bien correct, tu sais, mais c'était bizarre.
Nous autres, avec le Wild, on avait, tu sais, on gagnait pas souvent. Tu sais, quand tu parles de mentalité perdante, tu sais, que tu changes pas, puis ça, mais c'est ça. Nous autres, il y avait coupé même certains voyages où il y avait plus de boissons sur l'avion parce que on perdait 6-1, puis on arrivait dans l'avion, puis il y avait des verres de vin, puis on jouait aux cartes, tout était beau comme si on, mais tu sais, on n'avait pas une équipe gagnante, on n'avait pas une tradition gagnante à Minnesota, puis le coach a comme voulu casser ça, fait qu'il avait mis un règlement de les soirs, il y avait des soirs où ce que c'était, il y avait plus de boissons sur l'avion, fait que ça a été un règlement qu'il a mis, puis c'était bien correct au final parce qu'à un moment donné, faut que ça change, tu sais, parce que si tu restes là-dedans puis t'acceptes tout le temps la défaite, tu vas accepter de perdre puis tu progresseras pas comme équipe.
Ah, tu vois, nous autres à Vancouver, on voyageait beaucoup puis on avait trouvé un truc. Les entraîneurs trouvaient qu'on buvait beaucoup de café après les matchs. On buvait d'une tasse à café.
Les gars étaient plus inquiets.
Comment tu dormes, les gars?
Ben oui, c'est ça. Avec le bracelet d'indice de fatigue des Canucks de Vancouver puis du café 20 heures par jour, là, ça devait pas dormir souvent. Si bol. On va te dire une affaire. Quête de souvenirs. Puis vous autres, si vous étiez le boss d'une équipe, est-ce qu'il y en a un règlement après toutes vos années de carrière, puis peut-être que tu l'as vécu, c'est vrai que c'est pas la même affaire dans le Midget 3, des trucs du genre, mais est-ce qu'il y a des règlements qui sont sains et même très utiles, tenue vestimentaire, je sais pas, couvre-feu.
Moi je suis pour la tenue vestimentaire. Je trouve que ça l'amène à une élégance, ça l'amène à un respect de la game. Moi je suis pour ça. Je suis pour les couvre-feux aussi, les veilles de match. Mais une chose que je ferais par exemple, c'est que il y aurait des soupers d'équipe obligatoires parce que tout le monde est là. T'as pas le droit de dire, tu sais, on va sur la route, on a deux jours avant un match, mais tout le monde va super ensemble, puis ça serait obligatoire comme entraîneur de créer ces liens-là. Parce que, tu sais, t'as beau être 20-22, il y en a des fois que tu croises, pas que tu croises pas, mais que t'as moins d'affinité, puis des repas comme ça permet de créer certaines ouvertures.
Moi, ça serait les jeunes comme un Slavkovski, par exemple, en ce moment, ça serait obligatoire qu'ils vivent soit chez un vétéran, un ancien, ou quelqu'un qui fait partie de l'équipe, ou qui fait partie de l'équipe, qu'on l'a vu avec Gallagher puis Josh Georges au début de sa carrière, Crosby, Mario Lemieux. Moi, je pense que c'est primordial de faire ça. Tu peux pas avoir un jeune qui arrive en appartement ou un jeune qui va vivre avec un autre jeune en condo dans la ville de Montréal en commençant dans la Ligue nationale de hockey. Il faut que tu sois sur un vétéran. Faut que tu aies quelqu'un que quand tu reviens le soir qui est capable de dire la vérité, puis qui est capable de te dire aussi calme-toi, va t'amuser ou de te changer d'idée puis arrêter de penser au hockey. Ça peut pas être toujours un jeune qui se débrouille par lui-même. Tu sais, je vois pas en ce moment Slavkovski se prendre un condo s'il fait l'équipe, se faire à manger lui-même, voyager. Je comprends, là, il y a pas 12 ans non plus, là, mais j'aimerais mieux qu'il ait vu chez un vétéran.
Ben, c'est intéressant parce que j'en ai discuté avec Kent Hughes hier de ça. Voulez-vous l'encadrer? Ça fait 4 ans qu'il ne vit plus chez lui, là. Il a vécu en Autriche.
Il a vécu en Autriche, puis ouais, ça.
En Finlande. Il débarque à Montréal et voici l'extrait de la conversation où j'en discute avec le DG. Les gars, c'est intéressant que tu amènes ça, Maxime.
Ça fait longtemps qu'il est parti de chez lui. Je viens de parler avec Mike Matheson, puis il a dit « C'est quoi vos plans? » J'ai dit « Écoute, on va le prendre au niveau de avec qui il va habiter, dépendant de ce que ce soit à Montréal ou à Laval, mais c'est sûr qu'on doit accepter le fait qu'il était tout seul depuis, je crois, 4 ans déjà. Puis je sais avec mes enfants qui sont tous partis à l'université, quand ils retournent chez nous, ils n'aiment pas les règlements qu'on fait, puis Mike a dit oui, j'ai vécu la même chose. Alors, on doit trouver quelque chose qui fonctionne pour lui, mais c'est sûr qu'il va avoir besoin d'un encadrement parce que il est devenu très fameux à Montréal.
Vedette instantanée.
Exact. Alors, on veut le protéger. On veut lui donner le meilleur environnement pour développer comme joueur. J'ai dit la soirée du repêchage qu'on n'a pas repêché qu'est-ce qu'on espérait être le meilleur 18 ans. On a repêché quelqu'un qu'on espère va être le meilleur 20 ans, 22 ans, 24 ans. Qu'on veut le meilleur joueur pour une carrière, pas le meilleur joueur pour l'an prochain.
Que le petit gars ou le grand gars est habitué de vivre tout seul. Ça fait 4 ans. Kent, ses fils sont partis. Ils se disent, ben là, tu sais, je pense pas qu'il va accepter qu'on y mette une nounou. Il va-tu rester sur un vétéran? J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver comme solution, mais c'est important. Maxime, Guillaume, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ah non, moi, je suis pas en désaccord avec ça. Si jamais, tu sais, ça fait longtemps qu'il est peut-être seul puis il est plus autonome qu'un jeune normal. Mais au moins d'avoir un suivi puis d'avoir un rapport ou un checkpoint avec lui pour être sûr que les choses sont faites comme il faut. Puis de choisir les moments dans la saison aussi pour quand c'est le temps de faire la fête puis d'avoir du plaisir puis baisser la pression quelquefois puis le stress. Je pense que c'est très pertinent.
Je reviens au règlement d'équipe, les gars. Juste une anecdote tirée du texte de Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal où il s'entretient avec Brian Gionta, une petite anecdote cocasse avec Piqué, mais qui traduit peut-être un petit peu ce qui irritait parfois ses coéquipiers là avec son surplus d'entrain. Mais au-delà de ça, c'est que des fois, il suivait pas tout à la lettre les règles. Autrement dit, ça arrivait qu'il arrivait plus tard que les autres dans le vestiaire, semble-t-il. Je vais citer donc le petit bout là où on décrit la situation. Gionta parle. Je me souviens pas de l'année, encore moins de la date, mais c'est on y avait joué un tour, là. C'est pour un entraînement devant les partisans au Centre Bell. Piqué n'arrivait pas dans le vestiaire. Il était en retard et ça fâchait quelques gars. Hall, Gill et Gomez et moi avions coupé tous ses bâtons. Nous avions caché des pièces de son équipement. Finalement, il avait trouvé une façon d'arriver à temps sur la glace. Il n'y avait pas de ruban sur ses jambières. Il avait mal attaché ses patins. Il avait emprunté un bâton droitier d'un coéquipier. C'était une petite leçon, mais nous avions aussi eu ben du plaisir. On avait rigolé, mais il reste que donc le comportement d'une équipe, j'en reviens un petit peu au règlement d'équipe, mais des gars qui tournent les coins ou qui ils se disent les règles sont pas pour moi, ça peut irriter une équipe. Hein? Est-ce que ça peut même faire en sorte que tu te retrouves toi et l'équipe?
Ben moi, je pense qu'il y a des règlements que tu peux pas briser. Tu sais, la ponctualité d'arriver à l'heure, à moins d'un gros pépin, là, d'arriver à l'heure, je pense que tu as le respect pour tout le monde. Puis ça fait partie du hockey. Là. Fait que pour moi, c'est probablement le premier règlement le plus important, c'est la ponctualité et le respect des horaires. Parce que tout le monde t'attend, tout le monde a un horaire, tout le monde a une routine, tout le monde a une façon de faire. Peux-tu respecter au moins l'heure qui est donnée? Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est sûr.
Ouais, 100% d'accord. D'arriver en retard, c'est la pire chose, selon moi. Mais tu sais, la plupart des gars comprennent là, que tout le monde doit faire les mêmes choses, puis c'est un concept d'équipe. Est-ce que ça arrive une fois de temps en temps, une erreur? Ben oui, puis il faut pas non plus... parce qu'un gars arrive en retard une fois, puis il parlait de ça 10 ans après. Tu sais, à un moment donné, ça fait partie de la game. Il y a des gens qui il y a des embûches, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ça fait partie de la vie, là, du trafic. Peu importe, là. Mais vraiment, arriver à l'heure, ça, je pense que c'est la chose qui est le plus critiquée dans la Ligue nationale. Il y a des amendes salées. Puis j'ai déjà vu peut-être des joueurs pas jouer à cause qu'ils sont arrivés en retard.
Tu sais, là, faut comprendre aussi que c'est la pratique devant le public, là, tu sais, aussi. Tant que on s'entend, là, d'habitude, on a 2-3 jours de congé avant ces matchs-là. Fait que, des fois, on a du plaisir la veille, puis ça arrive, là, tu sais. Fait que, ça fait partie de la game aussi, là. C'est un moment plus tranquille dans la saison qu'on se permet de faire cet événement-là. Fait que ça me dérange un peu moins qu'une pratique normale, mettons.
Petit sujet rapide en terminant, les gars. 74 joueurs au camp d'entraînement des Canadiens. De mémoire, plus il y a de monde, moins on est prêt pour commencer l'année. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben là, j'espère qu'on dit à tout le monde qu'il était pas sûr de faire l'équipe. Là, parce que ça, 74. Okay. Ben ça dépend, Mario. Je pense que ça peut permettre à certains vétérans de jouer moins de matchs. Des fois, il y a des gars qui arrivent en grande forme, ils n'ont pas besoin de jouer 8 matchs ou 5-6 matchs, je veux dire, les risques de blessures et tout ça. Je sais pas. Je pense que ça envoie un message que, écoute, il y a beaucoup de monde qui sont ici pour quelques places dans l'alignement. Ça met encore plus de pression. Moi, j'aime ça. Puis ça te permet de découvrir d'autres talents. Peut-être qu'il y a des gars que tu connais pas qui vont sortir du camp. Puis on va dire, coudon, il sort de haut, lui. Puis ça va être un gars qui va aider dans le futur.
On va sûrement se retrouver aussi, Mario, que ça va permettre à certains joueurs. On va sûrement diviser. Tu sais, ça va être en 4 équipes. Puis on va sûrement diviser ça aussi. Ça va permettre à des joueurs de prendre du leadership. Tu sais, chaque trio va avoir son équipe à gérer, va avoir sa façon de travailler, va avoir sa façon de faire. Fait que je pense que ça va permettre à chaque trio d'avoir un petit côté leadership pour permettre aux joueurs. Puis en même temps, je pense que tu sais jamais dans un camp d'entraînement qu'est-ce qui peut arriver. Puis cette expérience-là d'aller dans un camp d'entraînement puis de grandir comme joueur, c'est gros aller à un camp de la Ligue nationale, de jouer des matchs à concours, de jouer des matchs inter-équipe, c'est gros pour un joueur. Puis ça va permettre d'être justement, ces 74 joueurs-là vont avoir vécu une expérience que au prochain camp d'entraînement, ben ils vont déjà l'avoir faite. Fait que je pense qu'ils vont déjà être en avant sur cette année.
Et que ça passe vite, nos mercredis Poche Bleue Radio, les gars. Je sais que vous allez passer quelques jours dans Charlevoix en fin de semaine, une région que nous aimons tous. Vous allez y jouer un match avec cueillette de fonds pour aider les jeunes hockeyeurs dans le besoin de la région de Charlevoix, l'équipe de la Poche Bleue contre les anciens Canadiens. Et la question, savez-vous si les anciens Canadiens ont déjà enrôlé Piqué?
Oh, ça serait une belle surprise.
Oh, il est droit en forme, là.
Ça serait une grosse sortie comme première sortie comme vous autres à Charlevoix, ouais. À Clermont.
Ouais, mais tu dis match amical, puis je regarde les noms, ces alignements, puis je pense que le niveau d'intensité va monter assez vite, puis ça va arrêter d'être un match amical.
OK, OK. En tout cas, si ça brasse les boys, je peux faire le trajet dans 4 heures.
Bon, parfait. On t'attend,
Mario.
Salut, boys. Merci beaucoup. Bonne
soirée.
Merci,
bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
On a beaucoup parlé de Piqué Subban hier avec l'annonce de sa retraite, parallèlement celle de Dino Chara. Et peu importe les discussions que j'ai eues avec plein de monde sur un ou sur l'autre, ben ça nous amène ou ramène souvent la rivalité des Bruins, parce que tout le monde me parlait de la mise en échec de Piqué sur Brad Marchand. Évidemment, on pense à Chara, Pacioretty. Mais un des incontournables, quand on pense à Chara, puis qu'on était un amateur du Canadien, qu'on a regardé ça, on pense à Steve Bégin également. Et d'ailleurs, ça donnait une anecdote parlant du loup. On parlait de Steve hier, des oreilles de veille cilée. On en a parlé encore tantôt avec Guillaume Latendresse en se rappelant le fameux combat, si on peut appeler ça un combat, quand Chara l'a grippé puis il a sauté dessus. Et voici ce qu'on disait d'ailleurs à propos de Steve il n'y a même pas une demi-heure.
Ce match-là, je sais pas si tu te souviens, là, tu le vois sa séquence, il essaie d'arracher la tête à Alex Kovalev, mais c'est Steve Bégin le vrai coupable dans toute cette histoire. Moi, j'ai payé pour Steve Bégin, dans le fond. Steve, il l'a pas lâché, ce match-là. C'était même pas drôle à quel point il a réussi à sortir Chara de son match. Il était plus capable, puis on est arrivé à la fin, puis justement, Steve Bégin, il a fâché le gros Chara, puis comme je me plais à dire, Chara s'est battu avec moi, mais moi, je me suis jamais battu avec.
Alors, voilà pour l'anecdote, et plus tard dans sa carrière, il a joué avec Chara, mais on a le coupable au bout du fil, Steve Bégin. Salut Steve, comment ça va?
Salut, ça va très bien, toi-même?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté de nous parler ce soir. Toi qu'on peut entendre et voir avec la gang de la Poche Bleue de midi à TVA. Écoute, Dino Chara, juste entendre son nom, toi, c'est quoi les souvenirs spontanés qui te reviennent, Steve? Donc cette fois-là, c'est-tu vraiment toi qui avais mis le trou, puis Guillaume, as-tu payé le prix à cause de toi?
Oui, ben un petit peu, oui, parce que ben toutes les fois que je jouais contre Chara, ça me faisait un plaisir de le sortir de ses gonds, de le sortir de la partie. C'est un petit peu ça ma job. Mais je me souviens cette partie-là, Chara avait perdu la tête et il s'était tourné, puis il avait droppé et sauté sur Guillaume. D'après moi, c'est il pensait que c'était moi, puis c'était Guillaume malheureusement qui a payé le prix. Puis, comme qu'il dit si bien, Chara s'est battu avec, mais lui s'est pas battu avec Chara, mais écoute, c'est tellement drôle là.
Tellement drôle, tu dis. C'était quoi l'affronter comme adversaire avant qu'on parle de ta rencontre avec lui comme coéquipier un petit peu plus tard? Mais quand tu jouais contre Chara, t'avais-tu un plan de match bien précis?
Ouais, c'était juste de pas le lâcher. Je savais que j'étais capable de le faire sortir de sa partie. Puis je pense que quand on faisait ça, c'était un plus pour nous quand il embarquait dans mes... c'est dans mes niaiseries, là, que je le dérangeais. Là. Je le frappais. Il n'aimait pas ça se faire frapper. Mais tu sais, il est capable d'en prendre parce que, sérieusement, là, un des meilleurs, sinon le meilleur leader que j'ai eu la chance de jouer avec. Une personne extraordinaire, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire. Tu sais, quand on construit des équipes gagnantes, là, c'est un entour de joueurs comme ça que tu veux. Puis, tu sais, Boston, ils ont été chanceux. Il y a deux joueurs exceptionnels, côté joueur et côté leader. C'était lui et Bergeron. Dans la même équipe, c'est spécial que tu retrouves ça. Mais, écoute, j'avais... c'était assez... j'aimais ça parce que, moi, c'était un challenge pour moi. Puis, il est trois fois gros comme et grand comme je le suis. Donc, le challenge, c'est encore plus gros, mais... ça fonctionnait, puis je me souviens la première journée que j'étais arrivé à Boston, il est venu me voir et dit « Oh my God, je suis content que tu sois rendu de mon côté. » Puis c'est le premier qui m'a donné son numéro de téléphone, qui m'a dit « Hey Steve, t'as besoin de quelque chose, là, tu viens me voir, là, tu m'appelles, puis je vais être là pour toi. » Fait que là, j'ai tout ça dessus là, que c'est un leader fantastique, incroyable.
Mais veux pas, Steve, là, rappelle-nous le contexte dans lequel tu te retrouves avec les Bruins. Puis là, toi, tu sais la rivalité canadien-Bruins, puis Chara, tu le lâchais pas deux minutes. Je sais pas si t'es pas énervé de nature, là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? T'avais-tu un petit inconfort avant d'aller serrer la pince?
Ben non, pas en tout, parce que tu sais, moi, je suis un professionnel, puis ce qui se passe sur la patinoire quand tu joues contre une personne, puis après ça, tu te ramasses dans la même équipe, tu sais, il faut que tu fasses à part des choses, que, écoute, on est rendu des coéquipiers, là, on est rendu des amis dans la même équipe, on est là pour le même but. Fait que, mais lui, c'est ça à 100%, là. Lui, zéro rancune, rien, puis il s'en vient de voir, puis hey, je suis content, puis tu sais, il n'y a pas de... professionnel, là, faut que tu saches... quand tu transfères de l'autre côté dans une des plus grosses rivalités en plus, c'est fini, là. Tu penses à autre chose, puis c'est une nouvelle vie, puis t'es rendu de l'autre côté, là.
6 et 9, 250 livres, Dino Chara. Physiquement.
Juste ça.
Pour moi, d'après moi, il a déjà monté à 260, 265.
C'est deux joueurs, ça?
Écoute, c'est David Desharnais, puis trouve-moi ça un autre. Cold Coffee.
Un par-dessus l'autre.
Ambidex, mon Steve. Ça tient les deux bords. On est sa
plus. Ben, écoute, je vais t'arrêter là, mais je te garantis là, que tu prenais les deux hockey. Tu prends ces deux hockey, des gars-là. Là, il est pas plus grand que celui à Chara. Ça, c'est sûr et certain.
Il doit se faire ça des hockey spéciaux, ça, nécessairement, là, ce grandeur-là. Okay.
C'était grand, c'était incroyable. Là. J'ai essayé de pratiquer avec ça, c'était ridicule.
Ça t'allait où? Mais l'affaire, je voulais savoir, pour avoir joué un petit peu quand même au hockey pour football, les contacts, il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit, mais des fois, tu peux te faire mal en te donnant. Puis j'étais curieux, quand tu te donnais une swing, quand tu te donnais un gros élan, ça a-tu déjà arrivé que tu te frappais un mur en le frappant? Mais je sais que tu avais de l'impact, mais où tu sentais-tu qu'il y avait moyen de le faire tomber ou de l'ébranler aussi?
Ah, il était solide, il était vraiment solide sur ses patins. C'est quelqu'un qui est très, très fort physiquement et en forme, là, comme c'est un des gars les plus en forme de la ligue. Puis c'est quelqu'un qui prend ça vraiment, vraiment passionnément puis sérieusement. Là. Lui, l'entraînement l'été, là, c'est puis durant la saison aussi, là, mais c'est quelque chose de très important, puis il se donne à fond. Dans les tests, il finissait toujours d'un premier, là, puis c'est pas une surprise, là, puis c'est reconnu dans les comment est-ce qu'il est méthodique, comment est-ce qu'il est sérieux, comment est-ce qu'il est, c'est impressionnant la façon qu'il s'entraîne, là. Fait que sur la patinoire, il était très en forme, mais il était vraiment fort physiquement, là.
Tu as joué une année avec lui, une année complète et des séries éliminatoires qui ont suivi. En fait, c'est l'année du printemps à Lac, mais les Canadiens et Bruins ne se sont pas affrontés cette année-là. Est-ce que c'était un gars vocal? C'est-tu plus Patrice qui avait le leadership vocal dans le vestiaire des Bruins à cette époque-là?
Non. Il se levait, puis c'est un leader parfait, là. Autant sur la patinoire qu'à l'extérieur, la façon qu'il se comporte, même à l'extérieur de l'aréna, là, puis j'ai parlé de Bergeron, là, ces deux pareils, là, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, de ce qu'ils mettent dans leur corps. C'est impressionnant de les voir aller, puis tu apprends de ces joueurs-là, puis c'est des modèles exemplaires, là, ces gars-là. Puis, tu sais, j'ai été chanceux. Là. En plus, comme je t'ai dit, là, Boston, d'avoir eu ces deux joueurs-là dans la même équipe, là, c'est faut que tu sois chanceux, puis c'est spécial. Là.
Faut que t'aimes le hockey aussi, Steve. Tu sais, t'as toujours été passionné, t'es allé au bout de ce que ton corps te permettait de vivre. T'as même effectué un super retour au jeu. Quand tu regardes Chara, 45 ans, puis j'ai l'impression, tu sais, qu'en annonçant sa retraite hier, ce que j'en décode, c'est qu'il était prêt à rejouer s'il y avait eu un poste quelque part, s'il y avait eu un contrat. Je sais pas si c'est de la même déduction que t'as. 1680 matchs de saison, 200 matchs de série. On parle même pas des matchs éliminatoires. Hey, faut-tu que t'aimes ça? Tu sais ce que ça exige, là. Juste de te préparer un été. Steve, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que ça représente? Puis que le gars, il fait ça jusqu'à cet âge-là.
Ben souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas justement c'est quoi l'implication, c'est quoi le temps que tu dois mettre. Puis
tu sais, comme lui, je peux parler pour lui parce que, comme j'ai dit, je sais comment est-ce qu'il était côté entraînement, côté sérieux et tout, là. C'est une bonne partie de la journée qu'il part, il va s'entraîner, tu sais, des routines à quoi faire, puis il peut aller faire des stretches, il va s'en aller dans le gymnase, puis après ça, tu vas pas aller du côté sur la patinoire. Lui, il a fait ça pendant des années jusqu'à... C'est quoi, il a quel âge?
45 ans.
1640 parties, c'est vraiment, c'est beaucoup, puis c'est tough, surtout de la façon qu'il jouait. Puis il faut dire également que c'est pas légal la grandeur qu'il y a pour un joueur d'hockey, là.
Hey, c'est quelque chose, c'est quelque chose.
Tellement grand. Fait que oui, c'est vraiment dur sur le corps, puis je pense que c'est encore plus dur sur le corps d'une personne de cette grandeur-là, de cette grosseur-là. Parce que tu sais, je sais pas si vous, les gens vont se souvenir un petit peu de ses débuts, mais il était pas comme très à l'aise sur une patinoire, puis la manière qu'il s'est développé au cours des années, il a réussi à apprendre à contrôler son corps, puis à bien l'utiliser sur une patinoire, puis c'était un des défenseurs, un des meilleurs défenseurs là dans la ligue là, ce côté-là avec son on dit en anglais son reach là, avec son
hockey, oui, sa portée, oui.
Il était avec sa portée, il était tellement bon là, fait que
as-tu un meilleur souvenir de lui pour l'année que t'as passé avec, série et saison là, y a-tu une scène que tu revois, je sais pas, un combat, un but, une bonne œuvre?
Ben écoute, je pense que c'est l'ensemble de ce qu'il a fait, l'ensemble de la personne qui était, c'était tellement une personne gentille en plus là, qui prend le temps de discuter avec tout le monde. Puis moi je l'adorais, là du début à la fin. Même jouer contre, c'était le fun jouer contre parce que tu sais, c'était, c'était tellement bon. Ben oui, c'est le fun, c'était quand même un challenge. J'ai eu quand même des beaux moments à jouer contre lui, puis des beaux souvenirs, mais c'est tellement un bon leader, une personne qui prenait le temps là, avec tout le monde, puis il venait s'asseoir avec toi, puis il discutait, OK, écoute, j'ai remarqué ça dans ta partie, puis des fois, il venait me voir, il me disait ça, je suis allé voir, wow, c'est fou, c'est vraiment, j'avais rarement vu un leader comme ça, là.
C'est qui le gars, peut-être lui, mais je serais curieux de t'entendre parler. On était avec Steve Bégin en conversation. Pour Maxime, le gars le plus intimidant qu'il a vu dans sa carrière, c'était Geno Chara. Pour toi, c'était qui le gars le plus intimidant? Puis qui tu peux mettre en même compagnie, si tu veux, là, ton top 3, 4, 5? Là?
Ben, j'ai eu la chance. J'ai quand même joué des fins des années 90 lorsqu'il y avait des Brad May, des Simpson qui avaient des Bélanger, des gros toughs, là, des gars là je joue aussi avec des beaux gars. Puis dans ma première année, j'ai joué lorsque j'avais 19 ans, là, Sandy McCarthy puis Mike Peluso avec moi, là, je sais pas si tu le sais, mais je suis admiré sur la patinoire là, avec la façon que je jouais. Là, quand t'as deux gars de même qui viennent te dire quand t'as 19 ans, ils te disent hey kid, tu peux faire ce que tu veux sur la patinoire, là, on va être là pour toi, et là tu fais wow, OK, parfait.
T'es senti salivé.
Excuse-moi du terme, j'étais un petit Christ sur la patinoire, là, c'est peut-être 19 ans, 20 ans. Les deux qui viennent te dire ça, tu fais bof. Les deux des plus tough dans la ligue qui te disent que tu peux faire ce que tu veux, là, ben, on va en profiter un peu, hein, tu sais.
Tu grandis de 2 pouces.
Ben exactement. Puis j'étais cette année-là, je me souviens, j'étais à 170 livres, mais je jouais comme j'avais 200 livres avec ces deux gars-là.
Je comprends. Tant qu'à t'avoir au bout du fil, as-tu un petit souvenir de Piqué comme adversaire parce que tu l'as pas croisé comme sache, comme coéquipier à Nashville, non, peut-être? Ben, non?
Non. J'ai à Montréal, dans le camp d'entraînement, il est allé au début là.
Ah oui.
Ben écoute, moi, en tant que joueur, j'ai aimé le joueur, tu sais, ce qu'il apportait, puis surtout, puis on va pas se le cacher, là, il a joué dans une partie de où ce que les partisans du Canadien commençaient à trouver ça tough. Puis lui, je pense qu'il a redonné il a rallumé la flamme de certains partisans lorsqu'il était là avec il était tellement intense, tellement électrisant. Mais le problème, c'est que ça s'arrêtait pas juste sur la patinoire. Je pense que Piqué prenait beaucoup trop de place dans la chambre. Ça dérangeait beaucoup les joueurs, les leaders. Puis, tu sais, il l'a dit aussi. Hein, il a dit, j'étais une personne qui jouait au hockey. Oui. J'étais pas un joueur de hockey. Là, j'étais une personne qui jouait au hockey. Fait que je pense que ça m'a dit beaucoup sur le personnage. Mais ça enlève rien de ce qu'il a gagné en tant que joueur de hockey au côté personnel, ce qu'il a apporté, ce qu'il faisait. C'était un excellent défenseur, c'était facilement, il était bon, il était flamboyant, il était électrisant. Mais il fallait que tu tires une fois sur les rings pour le calmer. Là.
Ouais, jouer contre, c'était-tu difficile de jouer contre Piqué? Tu l'as affronté?
Oui, ben écoute, c'était difficile. Tu savais que des fois, il en faisait un petit peu trop avec la rondelle. Fait que mais autant que tu vas faire, il faisait plus souvent des bonnes choses que des mauvaises choses, mais tu savais qu'aussitôt qu'il partait, là, puis là, il commençait à faire ses tours, là, que tu pouvais l'avoir parce qu'il allait faire une erreur, là, tu pouvais le traquer, puis le piéger d'une certaine façon, mais non, c'était quelqu'un qui avait un très bon lancer, il fallait que tu surveilles ça, parce que s'il était placé sur son one-timer, il en sortait des bons lancers, mais tu devais garder la tête haute, là. C'était, comme j'ai dit, c'était un bon joueur. J'ai adoré ce qu'il a fait sur la patinoire. C'était quelqu'un qui pouvait quand même changer certaines parties de à certains moments de sa carrière, qui pouvait changer l'allure d'une game assez rapidement, là.
Merci, mon Steve. Et puis, bonne fin de soirée. C'était un vrai plaisir. Les auditeurs sont contents de t'avoir entendu. Puis, à la prochaine.
Ça m'a fait plaisir. À la prochaine, certainement. Salut, là.
Bye bye, Steve. Bonne soirée. Steve Bégin, l'ancien Canadien, des souvenirs inoubliables, et il nous parlait de sa relation d'adversaire et de coéquipier avec le grand Chara.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Comme vous l'avez constaté, ça a parlé encore beaucoup de Piqué Subban aujourd'hui, au lendemain de l'annonce de sa retraite. Et l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal a signé un texte qui a retenu mon attention sur son compte Facebook aujourd'hui. Patrice Bernier a écrit ceci. « J'ai aimé le joueur, mais encore plus l'individu. Souriant et disponible, il est triste qu'il mette fin à sa carrière car il y a un sentiment d'un manque. C'est peut-être moi, mais il aurait pu ou dû optimiser son potentiel plus loin. Reste que son passage à Montréal a marqué des esprits, dont le mien. Est-ce que Patrice Bernier aurait choisi de devenir hockeyeur s'il avait été précédé d'un Piqué Subban? Mais on va peut-être le savoir pendant la conversation qui s'en vient, puisqu'on a le plaisir d'accueillir l'ancien capitaine de l'Impact, Patrice Bernier lui-même. Bien le bonsoir, Patrice.
Bonsoir, Mario.
Piqué Subban, il n'a laissé personne indifférent. Dans ton salon, la première fois que tu l'as vu apparaître à l'écran dans l'uniforme du Canadien, tu te souviens si tu as déjà ressenti quelque chose rapidement le voir aller?
Oui, parce que, tu sais, écoute, je vais pas le cacher. Déjà là, je crois qu'il y en a sur les tribunes téléphoniques qui ont sûrement parlé de ça. Pour la communauté noire ou haïtienne, ben c'était déjà, il y a pas beaucoup de joueurs de couleur qui ont été dans la Ligue nationale, mais surtout des joueurs qui ont été flamboyants, électrisants comme lui. Et donc, quand il est arrivé, ben la première fois que je l'ai vu, je dis wow, OK, là, voilà quelqu'un de très créatif qui joue en défense. Là, c'est pas un attaquant, c'est un défenseur. Et pour moi, qui a joué au hockey longtemps, ben ça m'a redonné, il m'a redonné un certain goût d'aller regarder le Canadien. Parce qu'on peut se cacher, on aime bien les partisans du Canadien. Qui est-ce qu'on a adulé ou qu'on remarque puis qu'on parle de? Ben avant Subban, c'était Kovalev. Kovalev, on va à l'époque c'est Patrick Roy. Avant ça, ben c'est qui? C'est les Guy Lafleur, les Jean Béliveau. Donc, ce sont des joueurs qui te laissent une trace, une marque quand ils jouent.
Oui.
Fait que moi, Piqué Subban, oui, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, waouh, il y a des joueurs-là, il y a quelque chose. Est-ce qu'il peut maintenir ça? Parce que souvent, les jeunes fougueux ont ça, cette façon de faire au départ, mais est-ce qu'il peut être constant? Puis oui, il m'a tout de suite donné une forte impression.
Ma modeste façon de résumer mon impression de Piqué, il y a plusieurs axes là, que je pourrais aborder, mais je me rappelle de lui, Markov blessé alors qu'on arrive en série, puis tu sais, quand ton meilleur défenseur n'est pas en uniforme, t'as pas de grands espoirs au hockey, puis Piqué avait joué 2 matchs en saison régulière, arrive au printemps à Lac et est une bougie d'allumage dès son entrée. Il nous a donné de l'espoir comme amateur de hockey, mais la couche qu'on peut ajouter, puis tu l'as déjà abordé d'entrée de jeu, c'est que, oui, il nous a donné de l'espoir comme amateur de hockey de gagner des matchs, d'être diverti, mais il a donné de l'espoir à toute une communauté également, Patrice. C'est ça, c'est vraiment pas rien, là.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux le dire parce que, bon, je sais qu'il y a du monde, bon, communauté noire, mais je pense que la communauté de hockey aussi a été marquée par Piqué Subban. Mais la communauté noire, moi, je veux y aller d'une époque où, quand j'ai joué, j'ai vu beaucoup d'amis Moi, j'ai continué jusqu'à un petit bout de temps, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont lâché parce qu'ils se sont pas vus dans le hockey, qu'ils ont eu des moments difficiles à travers le hockey. Mais là, quand tout le monde a vu Piquet Subban, ben, je vais pas dire qu'il est Serena Williams ou Tiger Woods, mais ici, au Québec, il a donné cet espoir pour des jeunes qui regardent et disent « Hey, moi, je peux aller jouer au hockey, puis je peux m'exprimer. Je peux être qui je veux. » Parce que je sais, j'ai eu des amis, ou même moi-même, quand j'ai commencé jeune, tu veux jouer d'une certaine façon, puis on dit « Hey, tu peux pas jouer de même. Ou tu joues de même. Tu joues la game simple, rudimentaire. C'est comme ça que ça a toujours été. C'est comme ça que ça doit être. » Et puis Piquet Subban est arrivé, puis lui, il a joué d'une façon un peu les tourniquets à la Denis Savard, créativité de la défense. On n'a pas toujours eu un défenseur de même. Moi, je me rappelle de il y a eu des grands défenseurs, les Chris Chelios, Peter Svoboda, qui avaient cette élégance sur patin. Et puis Piquet Subban, mais pour la communauté, ça a dit, hey, voilà quelqu'un qui me ressemble, puis qui joue, puis qui performe. Puis oui, puis tu l'as dit, Alex, c'est pas juste ça, il est venu comme jeune, puis oui, beaucoup le mentionnent, c'est un showman. Mais c'était un gamer. C'est un gars que quand les attentes étaient élevées,
côté il était Bruins. Présent. Wow. Hey, oui. Non. Il avait pas peur quand il faisait chaud dans la cuisine, puis apparemment qu'il n'entendait des vertes puis des pommes là quand il allait jouer à Boston, là, puis qu'il se faisait insulter. Puis écoute, ça soutirait comme deux coches de performance de plus de lui. Fait qu'il a vraiment connecté avec nous tous, pas seulement la communauté noire, mais je comprends très bien ce qu'il a représenté pour la communauté noire. Puis c'est extraordinaire. Même que, permets-moi de penser un petit peu, je t'écoutais parler, Patrice, puis si t'avais été précédé, tu quand t'as joué junior, majeur, puis tu as eu une décision à prendre, soccer, hockey, peut-être qu'il n'avait pas bien à ton époque. Tu sais, si tu avais été précédé d'un Piquet Subban, je ne sais pas, j'ose. Peut-être que tu aurais choisi le hockey. T'sais.
Oui, parce que là, je suis certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au hockey. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de quand il a été changé. Pourquoi? Parce qu'il les a marqués. Il a stimulé, il a motivé une influence sur le hockey. De « je veux aller jouer, je veux être Piquet Subban ». C'est ça, beaucoup de jeunes noirs qui se sont dit « Wow, là, je peux aller le faire. » Et puis, en plus ça, je ne vais même pas dire juste des jeunes noirs, je pense que plusieurs jeunes joueurs de hockey ont dit « Wow,
ben oui.
Subban, il est électrisant. Moi, je veux être comme ça. » Oui, on veut dire à tous ces jeunes-là, vous ne pouvez pas être flamboyant comme ça tout le temps. Il faut être efficace avant tout. Mais, ils disaient « C'était correct de m'exprimer. Je pouvais aller sur la glace puis démontrer mon savoir-faire, mes aptitudes, mes habiletés, mes habilités. Donc moi, s'il avait été là avant, je pense que j'aurais eu une stimulation de plus des à côté. Tu sais quoi, je veux être comme lui parce que les Willie O'Ree, les George Larac, les Anson Carter et compagnie, il y en a qui sont ça a décalé entre temps. Là, t'avais quelqu'un qui a comme créé une vague et surtout ici au Québec et aussi pour les Canadiens de Montréal parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un joueur qui levait les gens de leur siège, il y a eu Kovalev, mais comme j'ai dit, un défenseur, wow, et Piquet Subban, si j'avais été joueur d'hockey à ce moment-là, je pense que j'aurais peut-être voulu aller dans la même ligne que lui, surtout en ayant grandi dans la culture québécoise où ce que l'hockey est prédominant.
Heureusement, tu as pris une excellente décision. Tu es devenu un grand de notre sport au Canada, représentant ton pays, devenant une vedette québécoise, montréalaise avec notre club de soccer. Et je ne sais pas si c'est par vos rôles dans des sports différents que vous avez pu connecter. Vous êtes devenu ami en quelque sorte, Patrice. En tout cas, on voit une belle photo de toi et quelques amis avec Piquet. Donc, tu as eu une relation avec lui?
Oui, ben j'ai eu, tu sais, je vais pas dire qu'on était amis proches, mais on a eu des connaissances similaires. Puis à travers un ami, ben la photo que vous avez vue que le monde peut voir avec Didier Drogba, Assun Kamara et Vandril Lefebvre, ben mon ami Antonio Park, qui est restaurateur, est un bon ami de Piquet Subban, et c'est à travers ça qu'on s'est côtoyé puis que tranquillement, on s'est vu quelques fois. Je pourrais pas dire qu'on est des amis proches, mais on a eu la chance de se côtoyer. Puis on était dans une même époque. Comme je dis, je jouais pour le Canadien, jouais au CF Montréal, à l'Impact. Puis par moment, on pouvait échanger sur les réalités d'athlètes, de sportifs. Et puis moi, je pense que j'avais dit chapeau parce que je trouve que ce qu'il faisait, c'est ça allait au-delà de je crois qu'il peut-être qu'il réalisait. Puis il en a fait beaucoup de bonnes choses. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que je sais que beaucoup de monde tombe dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Puis même moi, j'étais un peu déçu de peut-être de sa fin de carrière et peut-être certaines choses qu'on a entendues. Mais on oublie tellement le bienfait qu'il a fait sur la glace et hors glace. Qu'il était charismatique, mais qu'il était présent puis qu'il a contribué dans la communauté. Il s'est imbibé de Montréal. Il a voulu être des Canadiens longtemps. Ça,
faut honorer ça.
Faut retenir ça. Même si lui, il a eu des moments néfastes, il y a des choses, je peux pas le cacher. Au hockey aussi, je le regardais, tu le voyais là, répéter les mêmes erreurs, puis tu dis bon, il faut qu'il avance. Mais moi, je retiens le bon sur la glace et hors de la glace, et je pense qu'il continue à le faire encore, même s'il n'est plus à Montréal. Donc ça, Piquet Souban, oui, c'est exceptionnel. Puis voilà, si on a la chance de se côtoyer encore plus tard, ou s'il vient à Montréal plus régulièrement, oui. C'est quelqu'un que j'aimerais bien jaser avec, parce qu'il a des bonnes idées quand même dans ce qui est l'après-carrière.
Un petit souper en compagnie d'un Drogba, d'un Piquet Souban, d'un Patrice Bernier, Assun Kamara, Vandril, mais tu sais, des Drogba quand même une énorme vedette, toi aussi, Piquet. Ça jase de quoi des athlètes comme ça autour d'un bon repas, Patrice?
Ben tu sais, c'est drôle, parce que quand on a rencontré Piquet à ce moment-là, parce que ça a donné, moi je suis venu à Vanger avec Assun et Didier et Vandril, et Piqué, de ce que mon ami Antonio Park, il mangeait là souvent, souvent, parce qu'on s'est jasé. Puis lui, tu sais, autant que moi j'ai dit à Didier Drogba, c'est Piqué Souban, c'est une des vedettes du Canadien. Lui, tout de suite quand il est arrivé, il dit ah, Didier Drogba, il dit Chelsea, hey, je te connais. Puis c'est-à-dire, c'est justement qu'est-ce que Didier, comment cette puissance supérieure de quelle personnalité il était, mais c'était bien se jaser de la réalité d'être athlète, puis. Des bienfaits de ce qu'ils font, puis cet échange entre voilà, continuez votre bonne route, et que vous, les Canadiens, on vous souhaite bonne chance, puis de notre bord, ben voilà, ils suivaient un peu ce qui se passait avec l'Impact, parce qu'il y avait une bonne vague qu'on était en train de générer à ce moment-là, qui était fin 2015, puis après ça, on sait ce qui est arrivé en 2016, donc oui, un bon repas, des bons bons échanges, et malheureusement, pas plus, parce que j'aurais voulu, après ça, il partait à Nashville, mais voilà, c'était une belle soirée.
Est-ce que, comme amateur de hockey, observateur, intéressé à la chose publique, au divertissement sportif, as-tu eu mal quand Piquet a été changé par le Canadien?
Oui, parce que je me dis, tu sais ce que j'ai fait un parallèle au soccer. Je me dis, est-ce qu'une personnalité comme Piquet au soccer aurait pu survivre? Je dis oui, parce qu'il y a des personnalités plus grandes, ou du moins pas plus grandes que nature, mais qui ont un peu... Ils ont leur bien, puis ils ont leur mauvais, mais je regarde les Neymar, les grandes stars du soccer, c'est pas tout rose alentour d'eux. Mais le hockey, je trouvais que c'est une fraternité différente, une autre culture, puis j'étais comme, je suis pas sûr qu'on est prêt, on est encore prêt pour un Piquet Souban. Quelqu'un qui dépasse le cadre de la patinoire, de l'aréna, puis peut-être la fraternité du vestiaire. Et puis, tu sais, voilà, peut-être qu'il a ouvert des portes. J'ai entendu l'autre jour Maxime Lapierre en parler que, ouais, peut-être qu'il a fait beaucoup bien pour la Ligue nationale de pouvoir être un joueur, peut-être un entrepreneur, si on peut dire, être plus que juste le joueur de hockey. Parce que j'ai été dans ce monde-là, puis je le sais que c'est quoi, mais je pense que Piquet Souban, ça fait mal, oui. Je le comprenais en tant que personne de hockey quand on disait, bon, chez Weber, il va être plus un défenseur, il était de haut calibre, il était beaucoup plus classé, mais je me disais, c'est un jeune défenseur. Et est-ce que si un Martin Saint-Louis, un autre type d'entraîneur, était capable de le cadrer?
Plutôt que de le casser?
Oui, exactement, de le guider pour qu'il progresse comme leader, pas juste joueur de hockey, mais comme leader, parce que peut-être là, il se voyait aussi quelqu'un qui était dans les avant-plans avec Pacioretty à ce moment-là, nouveau gros contrat, puis qu'il devait comprendre sa responsabilité envers les autres joueurs, envers l'uniforme du Canadien de Montréal. Ça m'a fait mal parce que je me dis, dans le soccer, il y a des joueurs de même. Il faut t'apprendre à, je ne vais pas dire vivre avec, mais tu peux tirer le meilleur plus que de penser aux négatifs qu'ils apportent.
Hey, c'est bon, Patrice, m'a dit que, parce que tu réponds à des angles de questions auxquels j'avais pensé que j'ai pas besoin de te poser parce que tu y vas droit devant. C'est fort intéressant. Puis là, toi qui es imbibé de la culture du soccer, mais de la culture du hockey également, je sais pas si tu t'es déjà dit, moi, si j'avais été dans ce vestiaire-là, j'aurais peut-être pu, je sais pas comment dirais-je, là, alléger les choses, mais ouais, ça nous a tous interpellés, parce que quand on a commencé à avoir des échos négatifs de ce qui se passait derrière les portes closes, alors qu'on aimait tellement ce qu'on voyait, ce qui se passait au grand jour, sur la glace, etc., il y avait comme un clash épouvantable là, entre nos perceptions qui se passaient en coulisses, puis on se dit, ben voyons donc, moi j'avais dit, allez dans un camp de pêche, vous enfermez tout le monde, puis entendez-vous quelque part, parce que ça fait mal à tout le monde quand il a été changé.
Ouais, ben tu sais, j'ai vu les paroles de Brian Gionta, qui était le capitaine à ce moment-là. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a donné une anecdote que, tu sais, Piquet est arrivé en retard, puis que je pense qu'ils ont dit on a déplacé son équipement. Puis, tu sais, c'était des vétérans qui étaient prêts à lui un peu lui envoyer quelques messages.
Oui.
De le rôder, que, tu sais.
Ils ont coupé ses bâtons, ils ont enlevé ses affaires. On en parlait tantôt avec Guillaume et Max à la Poche Bleue. Fait que continue là-dessus, Pat.
Justement, fait que c'est des choses de même. Puis, je me rappelle, à l'époque, quand il y a eu l'échange, j'avais entendu Mathieu Darche dire que, tu sais, il y avait des vétérans qui étaient capables de dire, hey, Piqué, tu passes la limite. Là, il faut se recadrer. Parce que c'est un gars ambitieux, ça veut dire, il joue pas sur la fine ligne. Lui, il veut la dépasser tout le temps. Puis il en faut du monde qui le cadre pour qu'il vive dans les nuances. Et comme je dis, je répète par rapport au soccer, il y a de ces joueurs-là avec des gros égos que tu dois vivre avec. Puis si tu es capable d'aller les guider, les accompagner, d'avoir les bons mentors, si on veut dire, alentour, ben tu vas tirer le maximum. Puis ils vont grandir en tant que personne. Puis peut-être qu'il aurait grandi en tant que meilleur leader et devenir pas juste le joueur charismatique, mais aussi le leader que peut-être qu'on espérait de lui à l'époque. Quand il était jeune, puis avec un gros contrat, puis qui était la vedette, ou surtout une des deux grosses vedettes avec Carey Price. Mais souvent, les anecdotes, ça me disait que, ben, tu sais, les Brand Jonta de ce monde, c'est ça que tu as besoin, des fois. Dans un vestiaire, on dit tout le temps, il faut les jeunes, mais il faut des vétérans aussi, qui sont capables de donner des bons conseils, puis ça me fait penser, CF Montréal, ben, t'as un Kai Kamara, qui aide avec Wanyama, tous ces jeunes-là, des Mihalovic, des Kamar Miller, à pas perdre trop la tête, à comprendre qu'il y a un chemin à suivre. Puis il faut pas se laisser déborder par les grands moments ou les moments plus sombres où peut-être qu'ils se mettent la tête entre les deux jambes puis qu'ils pensent que c'est encore plus pire que c'est. Donc, le vétéran, l'expérience, ça, la sagesse, ça aide toujours dans un vestiaire.
Ça n'a pas de prix et je suis content que tu nous amènes sur Kai Kamara, sur le CF Montréal, parce qu'on a vécu des moments magiques avec ton époque à toi, avec Didier et compagnie, plusieurs autres, je ne vais pas oublier personne. Mais là, puis tu vois ça de proche, évidemment, je vous regarde à TVA Sport régulièrement, analyser, décrire les matchs. Il y a de la magie dans l'air autour du CF, Patrice. Au-delà de toute espérance dans ton cas, moi, j'étais confiant parce qu'on voyait ça prendre forme. Mais là, ils sont vraiment sur la route. Ils contrôlent le jeu. C'est hallucinant.
Ouais, ben, tu sais, c'est une belle progression de l'année dernière. Il y a des choses qu'on avait vues. Beaucoup d'entre nous, du moins, beaucoup de moi regardaient le jeu de l'arrière, la construction. On était comme, on peut pas jouer de même, on doit se défaire du ballon un peu plus. Mais Wilfried Nancy, avec ses joueurs, on gardait une droiture, une ligne de conduite droite. Il y a eu des bifurcations, mais ils étaient convaincus. Moi, au mois d'avril, j'ai dit très ouvertement, je les vois finir dans le top 4. C'est pas là que je les avais placés en début de saison. Hein. Je vais être très honnête, je les avais placés faire les séries, peut-être 6e, 7e, même peut-être maximum 5e. Mais entre-temps, ils ont passé un cap et c'est une année exceptionnelle avec des records de franchises qui ont été battus, éclipsés, pas juste par un ou deux points ou un ou deux buts. C'est un nouveau standard que la prochaine saison ou les prochaines équipes vont ça va prendre peut-être du temps avant de le battre, mais il y a beaucoup de quelque chose de très bien qui est passé. Puis début d'année, on a eu un nouveau président. Gabriel Gervais est arrivé. Olivier Renard était déjà en place. Wilfried Nancy est à sa deuxième saison. Tu as des jeunes joueurs qui, ça fait deux saisons tout au club, ont progressé. Et là, les résultats qu'on a, on va pas dire qu'on s'attendait, mais ils sont arrivés. Et ils sont surtout très constants et mentalement très forts. Dans les dernières semaines, c'est surtout ça que je remarque, c'est revenir de l'arrière, tenir bon, même quand t'es pas nécessairement bon dans tes performances. Et là, ils ont fini deuxième, ils s'en vont les séries. Il y aura un match au Stade Saputo à Montréal, des séries éliminatoires et potentiellement peut-être plus s'ils passent la première ronde. Donc, le seul côté que je dis, c'est que c'est la meilleure équipe de l'histoire. 2022, ils ont éclipsé les records. Mais on juge beaucoup tout sur l'entre-saison parce que c'est la Coupe MLS. Puis en même temps, ben, est-ce qu'ils peuvent se maintenir la stabilité pour les prochaines années? Ça, c'est ce qui va être intéressant pour cette Montréal. Mais suivons parce qu'il y a de quoi d'intéressant. Il y a un engouement là qui est là, qu'on avait perdu depuis une année, on sait tous, avec le rebrand. Mais là, on peut recaptiver, reconnecter à ce club-là et voir jusqu'à où ils peuvent aller.
Le buzz revient pour le CF Montréal. Un petit message, un petit clin d'œil à notre ami Joey Saputo, le propriétaire de l'équipe qui déplorait le fait que le buzz n'était plus là. Ben là, vraiment, renversement de tendance. On apprécie le moment, puis on touche du bois pour les années prochaines, mais sans bouder notre plaisir dans le moment. Patrice, un gros merci. C'était vraiment une belle entrevue. Au plaisir de te reparler bientôt. Merci d'avoir été là ce soir.
Ah, Mario, ça a été un plaisir. À une prochaine fois.
Merci. Patrice Bernier, notre ancien capitaine de l'Impact de Montréal, un grand ambassadeur pour le sport au Québec.
Les amateurs de sport.
c'est 23.